Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio. Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Sarah?
Ça va, en forme.
Aujourd'hui, on accueille dans ce studio un comédien multinational, franco-gréco-italien, théâtre, cinéma, télévision. Il a tâté de tous les supports, notamment le petit écran où il s'est révélé dans Falco sur TF1. Souvenez-vous, au cinéma, il a été aussi bien l'un des Lyonnais d'Olivier Marchal qu'un des voisins des Tuches. Demain, il enflammera Netflix et Apple TV. Mais en attendant, sur France 3, il va vous surprendre dans une mini-série à haut suspense et aussi à grande profondeur. Bonjour David Kamenos.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Merci. Tout cela, je te le donnerai. C'est pas le studio hein, que je vous donne du Buzz TV. Je vous offre, c'est bien le titre de la série. Dommage, mais effectivement, c'est très cher ici. La série de 6 fois 52 minutes, hein. C'est l'adaptation d'un roman de Dolores Redondo, qui est un peu la Mary Higgins Clark espagnole, réalisé par Nicolas Guichetot, qui avait fait Engrenage hein, notamment. On vous retrouvera aux côtés de Bruno Solo, il y a un grand casting, Aurélien Vic, Louise Mono, Annie Grégorio, Nicole Calfon, Alexis Loré. Mélanie Maudran, c'est un casting 5 étoiles. Est-ce que c'est, franchement, hein, en télévision, vous avez fait pas mal d'unitaires, mais aussi quelques mini-séries, une des plus ambitieuses que vous ayez faites en termes de casting, de production
En tout cas, en termes de...
Je ne parle pas des plateformes, hein, on en parlera après.
En tout cas, en termes de... À la lecture du scénario, c'est ce que je me suis dit, en tout cas. Je me suis projeté à cet endroit-là, en tout cas, de me dire... Soyons un petit peu ambitieux, parce qu'il y avait des choses à... On parle un petit peu de la vie, quoi, de choses assez profondes. Avec des prétextes pour ça et des codes du polar, de la saga, de plein de choses, mais on va quand même parler de choses de l'humain, quoi. Donc j'avais envie qu'on tende vers de l'exigence, quoi.
Ah, vous avez fait beaucoup d'unitaires hein, récemment, notamment il y a eu La vie devant toi, il y a eu Menace sur Kermadec, avec Claire Kane, il y a eu Meurtre à la pointe du Raz, Coup de sang. La différence entre un vrai unitaire et une mini-série de 6 épisodes comme ça, elle est vraiment énorme, soit en temps de tournage, en moyenne production.
Elle est déjà énorme à la lecture si c'est mal écrit. Parce qu'on...
Bah ouais, ça se voit tout de suite.
Parce que voilà, on a du mal à le voir.
Ça devient long,
voilà.
C'est ça.
Donc quand même, la série doit déjà passer cette première barrière, l'excitation de la lecture, quoi.
Et vous, ça l'a fait tout de suite?
Ouais, avec... j'ai accroché tout de suite. J'ai accroché tout de suite et j'ai pas lâché. Ouais, c'est ça.
Absolument. Et vous n'avez rien lâché, comme on va le voir dans cette série, évidemment. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. Et parler de tout cela, je te le donnerai. Ce sera après que Sarah Lecoeuvre nous donne, elle, les news médias du jour. Une fois n'est pas coutume, ça, on démarre ces news médias avec le chiffre du jour, c'est le 4 aujourd'hui.
Et oui, c'est comme le nombre de jurés qui composeront le prochain jury de Masked Singer qui revient bientôt sur TF1 avec toujours Camille Combail à la présentation. Alors TF1 a officialisé les membres du jury, donc il s'agit de l'historique Kev Adams, Chantal Latsou également et deux petits nouveaux, Laurent Ruquier qui désormais n'est plus sur BFM TV, qui est libéré de ses impératifs télé et l'humoriste Inès Reck qui participe déjà à la prochaine saison de Danse avec les Stars qui débutera bientôt également sur la Une.
Alors vous avez tourné pour TF1, notamment il y a eu Falco, maintenant c'est beaucoup France Télévisions, mais si demain TF1 vous propose de participer à une de ces émissions, est-ce que vous dites oui, je ne sais pas, Masked Singer, Danse avec les Stars, ce genre d'émission-là, est-ce que ça vous tenterait de le faire?
C'est pas un désir que j'ai.
C'est pas un
non,
désir.
J'aime jouer et j'aime jouer dans un cadre de jeu pour moi qui est le plateau. Voilà, c'est en tout cas ce qui me...
Ce vous dansez ou pas?
Oui, je dansais, on m'avait proposé Danse avec les Stars.
Ah ouais? Et vous aviez dit non?
Oui, la question se posait pas trop, j'avais du boulot à cette époque-là. Mais
c'est très prenant, en fait,
c'est pas vraiment mon désir. J'aime danser sur un plateau et là, je voyais pas ma place, en tout cas.
Et Masked Singer déguisé sous un voué, Masked Singer?
Ouais.
ça vous branche.
Pour l'instant, non.
Non, voilà. Pour l'instant, non. Alors, allez. Vous chantez aussi ou pas?
Oui.
Ah bah ça va, vous pouvez tout faire en fait, David. Bon, TF1 gardera votre numéro au cas où un un jour vous aurez un peu moins de boulot. On continue, Sarah, avec Victoria Monfort, la fille de Nelson, qui était victime d'un cambriolage à Paris encore.
Et oui, la série noire des cambriolages chez les célébrités continue. Le week-end dernier, le domicile parisien de la fille de Nelson Monfort a été visité et cambriolé. On a tout perdu, dit-elle, même notre identité. C'est ce qu'elle a témoigné sur son compte Instagram. Alors, selon Europe 1, le montant du butin s'élève à au moins 150 000 euros. Alors, il faut rappeler que depuis plusieurs mois, des tentatives de cambriolage, des cambriolages, des homejacking ont lieu chez les stars. On peut citer Nico Saliaga, Cyril Lignac, Anne-Sophie Lapix, Jean-François Piège, qui ont tous été victimes.
Absolument. Et Bruno Guillon, qui lui a même été séquestré en plus, gravement.
Ligoté,
ça vous effraie, cette série noire de cambriolage? Est-ce que vous faites attention sur les réseaux partout de ne pas trop divulguer votre vie privée? Parce qu'on sait que, effectivement, ces gens sont très ciblés.
Oui, après, on parle de célébrité. Je ne suis pas à cet endroit-là. Donc, non, mais je ne me sens pas
inquiet.
C'est bien sûr quelque chose qui peut faire peur. Là, moi, je ne me sens vraiment pas concerné à cet endroit-là.
Mais ça peut venir, sans que...
Peut-être.
Après la diffusion de ce soir, vous allez voir, on va vous suivre partout, mais... Non, mais c'est vrai, mais vous faites attention à ne pas trop dévoiler votre vie privée là-dessus, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il se repère beaucoup là-dessus, hein, les déplacements, les gens qui sont là, pas là.
Alors, je fais attention à protéger ma vie privée, mais ça ne dépend pas de ça, en fait. Voilà, je crois que j'ai assez tôt, je me suis dit que, voilà, j'allais face à beaucoup de gens, donc
dans la lumière,
qui me connaissent sans que je les connaisse, donc voilà, on fait attention.
Donc vous faites attention et vous protégez vraiment votre vie privée. On sait peu de choses sur vous, marié, enfant, tout ça. Vous voulez nous en dire un peu plus?
Non, pas spécialement. Non, mais je suis, encore une fois, on parle de célébrité et je suis pas dans ce statut là donc je suis pas sûr de l'intérêt de parler de ma vie privée, voilà, pour l'instant.
Pas sûr qu'après les sorties de Netflix et d'Amazon et d'Apple TV, on soit encore là.
On en reparle
dans deux mois, David, si vous voulez. Ouais. Et on termine avec le grand comédien Mads Mikkelsen qui espère bien relancer la série Hannibal.
Et oui, 9 ans après l'arrêt de la série dans laquelle il incarnait l'un des tueurs les plus célèbres de la pop culture, le comédien ne cache pas son envie de reprendre son rôle pour une saison 4. Et ça va devoir se faire bientôt, dit-il, parce qu'on ne rajeunit pas. C'est ce qu'il a confié à nos confrères américains de Business Insider, précisant qu'un saut dans le temps serait peut-être nécessaire pour élaborer une quatrième saison. Alors en 2021, il indiquait que des discussions étaient en cours avec la plateforme Netflix, justement. Mais aujourd'hui, il annonce chercher un diffuseur. Donc ça s'est peut-être pas terminé avec Netflix.
Bon, Hannibal et Mads Mikkelsen, ce serait fabuleux. Vous avez regardé un peu, vous connaissez ce personnage, j'imagine.
Quel acteur, disons.
Est-ce que j'ai une question, alors ne prenez pas ça pour un délire, mais est-ce qu'un rôle de salaud, de psychopathe, vous tenterez vraiment un jour de jouer un personnage comme ça, terrifiant, comme Colette Hannibal Lecter? Parce que vous avez le physique, vous pouvez le faire, vous pouvez être inquiétant, David.
Merci.
Vous êtes très souriant en coulisses, mais vous pouvez être inquiétant aussi.
Bien sûr, c'est hyper excitant. Après, j'ai un petit peu commencé plutôt comme ça.
Ouais.
Bizarrement, on me proposait des tueurs en série, des...
psychopathes.
Des méchants, des troubles, c'était assez dark, en fait. Je montrais quelque chose de moi qui était assez dark, donc on venait me chercher à cet endroit-là. C'est beaucoup allégé, je sais pas comment, mais un jour on s'est mis à m'appeler dans des fictions, à m'appeler François, machin. D'un coup je suis devenu français, qui était un peu nouveau aussi. Avant j'étais afghan, j'étais libanais, j'étais... Il fallait expliquer...
Tout le bassin méditerranéen, vous pouvez faire, en fait. Ouais,
et on avait besoin d'expliquer ce faciès, je ne pouvais pas être français dans les fictions qu'on me proposait. Et puis un jour c'était TF1 qui a commencé à le faire, en m'appelant Maxime, je suis devenu flic, j'étais français, il n'y avait plus cette question. Donc c'est certainement dû à l'évolution de la société quand même.
Bien sûr.
Où d'un coup on est un peu moins...
Et ça vous gênait, ça vous choquait aussi qu'on vous appelle que pour des rôles comme ça?
Non, c'était excitant, puis moi c'était les débuts, donc tout allait bien, quoi. Et puis j'étais pas fermé, j'avais le théâtre à côté pour expérimenter d'autres choses.
Ouais, d'accord.
Je me sentais pas frustré, et puis c'était des beaux rôles.
David, je l'ai dit, vous êtes à l'affiche de Tout cela, je te le donnerai, une mini-série passionnante, intrigante, forte. Donc je pitch un petit peu, vous incarnez Manuel Ortigosa, qui est un célèbre écrivain parisien, qui apprend évidemment, dès le début, totalement dévasté, la mort de son mari, Aymeric, dans un accident de voiture en Provence. Petit problème, votre mari était censé être en voyage d'affaires à Bruxelles, et quand vous descendez reconnaître le corps, vous découvrez en même temps une facette totalement inconnue de la vie de votre mari qui vous avait caché. Il avait hérité du domaine viticole familial qui vous revient désormais. Et ça va pas être du tout du goût de la belle famille qui, il faut le dire, ignorait même jusqu'à votre existence.
Ouais. Alors tout le monde ignore tout dans cette histoire, je crois, parce que moi j'ignore qu'il a encore un lien avec sa famille. Donc on découvre au moment du deuil, au moment où où tout explose, là, en plus, chacun tombe dans un gouffre, qui est qu'on découvre qui est Aymeric, quoi. C'est quelque chose qui m'a particulièrement touché dans le projet, c'est de parler du deuil à cet endroit-là. Et comment, dans
comment
le deuil...
chacun on... le vit et ouais, le perçoit, en fait, hein, c'est très
et
différent.
Et comment certains décident de s'accrocher à l'homme qu'ils croyaient connaître et à le figer dans ce qu'ils voulaient qu'il soit, en gros. Et le travail de Manuel, enfin le choix de Manuel, qui est peut-être d'aller découvrir qui était vraiment son homme, de faire le deuil de ce qu'il croyait de lui et voilà, d'aller découvrir qui il était.
Vous avez déjà connu un deuil comme ça dans la vie? Comment vous avez préparé ce rôle? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des éléments de votre passé?
Oui, après, c'est... comment dire? Une actrice peut jouer Phèdre. Pas beaucoup d'actrices ont eu la vie de Phèdre,
oui.
Par exemple. Voilà, donc il y a une grande part d'imaginaire. Heureusement. Et puis c'est petit peu justement le plaisir de ce métier-là. Après, d'aller... qu'il y ait des échos chez nous, c'est plus dans l'autre sens. C'est essayer de vivre l'expérience du personnage et de voir quel écho ça fait chez nous. Cet écho va ensuite nourrir à nouveau le jeu. Et voilà, mais ça se passe plutôt comme ça qu'à l'inverse, qu'aller chercher en soi et mettre soi sur le plateau. Ouais. Enfin, moi, c'est plutôt ce qui m'excite... dans le métier.
Alors, il y a des confrontations qui sont assez fortes, et notamment quand vous rencontrez la belle famille, l'ouverture du testament chez le notaire, et notamment cette incroyable froideur avec la mère d'Aymeric, votre mari, votre belle-mère, que vous découvrez, qui est jouée par Nicole Calfan, qui est incroyable, c'est super violent, c'est du froideur.
C'est un mur.
Ouais. Mais c'est incroyable.
Ouais, ouais, bah c'est, je crois que vous parliez des personnages de méchants et des salopards, je pense que Nicole a pris un grand kiff à jouer cette vieille salope.
Ah, c'est comme ça, directement. Ouais.
Non, je pense qu'elle a vraiment pris un kiff à jouer ça, parce que vraiment il y a un côté indéfendable à ce personnage, et en même temps on va aller chercher de l'humanité là-dedans. Donc.
Oui, parce qu'il y a aussi le fait de découvrir que son fils était homosexuel, hein, ce qu'il avait aussi caché, outre le fait qu'il était marié avec vous. J'imagine que ça fait un autre deuil dans le deuil, en fait.
Sûrement, après, je ne suis pas sûr qu'elle ait accès à ça à ce moment-là, le personnage. Je crois que vraiment, tout est refusé en bloc, et que c'est plus une manière d'aller attaquer... c'est une défense encore, d'aller taper sur l'homosexualité, ou comme elle taperait sur autre chose.
Bah, notamment sur cette famille, les Favre de Castelmort, qui sont des riches et puissants propriétaires, et qui vont tout faire pour récupérer cet héritage. Ils pensaient que ça leur reviendrait, et puis là, ils vous découvrent, et c'est vous qu'Aymeric a désigné comme son successeur.
Oui, après, je suis le mari, donc c'est un petit peu logique aussi.
C'est logique, tout à fait.
Mais en effet, l'histoire de la succession du domaine. Ouais. Et ça, c'est... c'était ce qui était aussi intéressant.
Ça, c'est code saga familiale, évidemment.
Oui, c'est ça. Après, ce qui était intéressant dans le projet aussi, à mes yeux, c'était que dans les premières lignes du scénario, on apprend que Manuel, donc le rôle principal, est marié. Oui. Et c'est une ligne dans le scénario, quoi. En tout cas, c'est pas le sujet de la série. Et c'est assez rare, je crois.
Oui, et ça vous a surpris, d'ailleurs, qu'on n'en fasse pas un sujet, le fait qu'il soit homosexuel,
en fait,
marié.
Ça m'a surpris d'être surpris. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit, waouh. Alors que, le mariage pour tous, c'est 2013.
Ouais. C'est la première fois qu'on voit un héros principal d'une série. Dans une série comme ça, c'est étonnant. On a regardé un peu, mais effectivement, c'est la première fois. Ça vous a surpris, vous aussi?
Ce qui m'a surpris, en fait, finalement, c'est, encore une fois, que ce ne soit pas le sujet. C'est un sujet, mais c'est pas le sujet.
Oui, oui, bien sûr.
Parce qu'à la limite, on pouvait aller nous faire une série là-dessus, on va dire. Mais là, non, c'est pas le sujet. C'est ça qui est vraiment surprenant. Manifestement, elles avancent. Manifestement. Après, ça vient d'un roman espagnol au départ. L'Espagne avait de l'avance sur nous.
Oui.
Le mariage, c'est 2005 là-bas. Hein, oui. Donc, vraiment, on est un peu à la traîne en France sur la représentation des couples homosexuels. C'est encore. Manifestement compliqué.
C'est pas toujours facile, évidemment, et comme dans toute sa famille, on va découvrir aussi un lourd passé, à base de maltraitance infantile, de carences affectives, de secrets bien gardés, mais en plus de ça, évidemment, de la mort de votre mari et de tous les mensonges, vous allez faire la connaissance de votre alter ego dans cette série, Bruno Solo, qui joue Richard, qui est un peu le lieutenant de gendarmerie locale, qui est au bord de la retraite, qui lui est persuadé que c'est pas un accident, ce qui est arrivé à votre mari, et qui va vous entraîner avec lui dans son enquête. Comment ça va se passer un peu entre vous vos personnages?
C'est un petit peu tendu. En gros, lui, il vient... c'est pas la joie au départ. Mais non, en gros, il va m'aider à faire le choix. C'est-à-dire, soit le Manuel, donc mon personnage, est dans cette explosion-là. Tout est parti en sucette. En gros, il a perdu l'homme de sa vie. Il découvre des choses terribles. Donc soit il va tout mettre sous le tapis, être dans le déni, soit il va aller voir la vérité en face. Et c'est ce que le personnage de Bruno lui propose, d'aller l'accompagner dans cette vérité. Voilà. Après, ça passe par des choses, ça se heurte, parce que c'est deux milieux sociaux différents.
Tout vous sépare, voilà. Hein, faut le dire. Hein, vous êtes un intellectuel raffiné, plutôt élégant.
Lui, on parle c'est... de Manuel, mon rôle.
Hein. Voilà, votre rôle.
Je parle de vous, Manuel. Et que, contrairement à lui, qui est un flic, franchement, pas franchement sympathique, et puis plutôt embouché, homophobe, par-dessus le marché. comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne, d'après vous?
Ah, parce que c'est le vrai succès aussi hein, de cette série, il faut le dire. On va pas tout dévoiler, mais votre duo improbable qui fonctionne incroyablement bien.
Ouais, je crois que ça se cherche. Ce qui me touche aussi dans le personnage de Bruno, c'est que dans toutes ces attaques homophobes et d'ailleurs on a enlevé beaucoup le mot homophobe parce que souvent mon personnage l'accusait d'homophobie.
Ouais.
Et ça s'est beaucoup transformé à l'écriture en vous êtes un gros con quoi.
Ouais, c'est-à-dire que tout simplement.
C'est vrai que Manuel il a 45 ans, l'homophobie il la connaît, celle de la société il la connaît, voilà. C'est là il a autre chose à vivre que souffrir de petites insultes homophobes. En gros, il est un petit peu au-delà de ça. Donc quand il va recadrer Bruno, c'est beaucoup sur son statut par rapport à la victime qui est son mari. Mmh. Et voilà, il s'attache vraiment à nommer les choses à cet endroit-là. Après, lui, qu'on l'appelle PD, qu'on l'appelle machin, il s'en fout un petit peu, il en a vu d'autres, en gros.
On profite de votre venue sur le plateau du Buzz TV pour parler de votre autre actualité, parce que vous avez une grosse année 2024, un gros mois de février, j'ai envie de dire, énorme. Parce que le 14 février prochain, sur Apple TV+, sortira The New Look, une série qui retrace l'ascension de Christian Dior. Vous jouez le compagnon du créateur de mode, si je ne me trompe pas.
Avec Benita, qui était un peu son amant secret. Alors,
en fait, c'est une création de rôle, c'est-à-dire qu'on a appris un peu de Jack,
Et le casting est absolument fabuleux. John Malkovich, Juliette Binoche, Hugo Becker, Zabou Breitman.
Glenn
Close.
John Malkovich, Hugo Becker. Il y a des Français. Juliette Binoche, qui joue Coco Chanel d'ailleurs.
Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette super production, David?
Ça tombe du ciel. ciel.
Non, mais
il y a une demande de tape. Enfin, depuis le Covid, il y a beaucoup d'essais qui se font en vidéo. Ouais. À la maison.
Et ça continue encore aujourd'hui.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que c'était faisable. Alors, c'est pas le plus excitant pour nous, parce que quand même, dans la rencontre avec le directeur de casting, c'est déjà du travail.
Ouais.
Alors, quand t'es chez toi, tu tournes un petit peu en rond avec toi-même, c'est moins excitant. Mais là, en l'occurrence, le projet est porté par le showrunner des Sopranos, Todd Kessler. Bon, j'avais un peu une idée du casting déjà. Ça valait le coup de trouver l'excitation quand même.
Et comment on se sent sur le tournage? Vous vous sentez tout petit?
J'ai été terrifié le premier jour et l'accueil à l'américaine, c'est-à-dire que tout va bien, t'as été choisi. Vas-y, c'est à toi maintenant, quoi. Et en même temps, c'est des gens, on n'est pas dans la caricature
Ils sont l'américain. Accessibles.
Oui, en plus,
Glenn Close, vous parlez avec elle.
Glenn Close, elle est divine sur le plateau. Oui. Alors ça a été le tour. Je crois que tout le plateau a fait des selfies à peu près.
Il y a des gens. Et Malkovich ou Mendelsohn sont anglais. Donc
mais c'est ça. Il y a Mendelsohn est australien. Il y avait un mélange de cultures et puis une équipe qui était française en partie. C'était délicieux. Et voilà. Et puis il faut bosser quoi. C'est du boulot en fait, mais avec des gens géniaux.
Ouais.
Alors, l'autre grand projet qui arrive, ce sera juste avant, c'est le 6 mars, vous n'arrêtez jamais, c'est Super Sex, la série de Netflix qui retrace la vie de Rocco Siffredi en plusieurs épisodes et qui a déjà fait scandale en partie, une partie de Bad Buzz, que beaucoup d'internautes ont appelé à son boycott avant même sa sortie, rappelant le comportement de l'acteur italien en France, notamment avec l'actrice Cécile de Minibus. Ça vous inquiète de voir ça avant même que la sortie sorte? Où vous dites, bon, après tout, on parle de la série, ça fait, c'est aussi de la promo.
Ça m'inquiète à un point, je ne savais même pas, je l'apprends là. Donc non, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Je crois que
vous n'aviez pas entendu ça?
Non, j'avais pas entendu.
D'accord.
Ce qui m'a plu dans le projet à la lecture, c'est qu'il y a quelque chose pour moi dans ce personnage, parce que c'est un personnage qui est traité de Rocco, c'est quand même une fiction basée sur sa vie, c'est que...
Vous jouez quel rôle d'ailleurs, Jean-Claude, c'est ça?
Ouais, Jean-Claude, Rocco arrive à Paris, d'Italie, vient voir son frère qui bosse dans un bar, qui blanchit l'argent de la mafia corse.
D'accord.
Je suis un des Corses.
Et c'est vous.
Voilà. Mais en gros, ce qui était intéressant dans le personnage de Rocco, de ce que j'ai pu lire du scénario, c'était que c'était traité un peu à la Van Damme, c'est une sorte de personnage un petit peu lunaire, quelqu'un qui a à la fois une pensée un peu étrange, chelou, et une dichotomie entre ce qu'il fait et ce qu'il pense, et voilà. Donc il y avait quelque chose d'assez intéressant sur ce personnage-là. Mm. Et pour moi, c'est ça dont on parle plus que de, plus que de cul, quoi.
Effectivement. Il y aura pas de cul dans le... Si, il y aura un peu de cul quand même.
Il y en a quand même un peu.
Ah, quand même, rassurez-vous.
C'est la vie de Rocco Siffredi, quand même.
Non, mais le rapport au désir, à la sexualité, voilà, bien sûr. Bien sûr.
Oui. Mais là, vous commencez à devenir un acteur à l'international, si je comprends bien, entre Apple TV plus Netflix. Non, est-ce que vous avez cette dimension-là? Vous vous dites, ça y est, là, je m'exporte un peu comme Camille Cotin peut le faire, ou ouais. D'autres, hein, Marion Cotillard, Omar Sy.
Ça n'a jamais été le but. J'ai jamais pensé grand. Enfin, j'aime bien penser précis. Ouais. J'ai commencé le travail comme ça, avec le plateau. J'ai jamais pensé à faire des grandes scènes. Je voulais travailler des textes. Voilà. Et je garde encore ce goût-là de ne pas aller voir au-delà, de voir, regarder là où je suis et d'en profiter, de travailler là où je suis, en fait. Ouais. Après, force est de constater qu'il y a deux séries... Ouais. Voilà, international qui arrive, mais c'était pas le but, quoi. Ouais. Vraiment.
Alors, je vais revenir à Super Sexe. Est-ce que vous pensez, notamment avec cette vague qui a eu d'indignation avant même sa sortie, que les mouvements conjugués du wokisme et notamment de MeToo peuvent être parfois dangereux pour l'art? Je parle des films ou des séries. Très récemment, le groupe M6 a annulé la diffusion des Valseuses, le film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, à cause de l'affaire Depardieu, évidemment. Est-ce que vous trouvez ça parfois que ça peut être dangereux, notamment pour l'art?
Ouais, je crois que l'art n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Enfin, vous voyez, c'est terrifiant. C'est terrifiant que ça ait touché l'écriture. Enfin, moi, ça me fait très peur qu'on ait touché à l'écriture même, à la pensée, en fait.
Ou qu'on ne rediffuse plus Les Valseuses, qui fait partie du patrimoine français, hein, des
films. Ouais. J'avoue que là-dessus, je suis un petit peu... J'ai comment dire? J'ai l'impression... Il y a beaucoup de commentaires, on est dans le commentaire, c'est évidemment, puisqu'il y a une parole qui s'ouvre, et voilà. Donc, et qu'en même temps, on est sur le commentaire du coup du commentaire. Enfin, à mon endroit, j'ai vraiment l'impression d'être à cet endroit-là, et que du coup, j'ai besoin de rester vraiment moi, je vois les projets qui m'arrivent, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des interdits.
De la censure.
Voilà, je reste à mon endroit, moi je ne la vis pas. En tout cas.
Mais la condamnation, les différences hommes-artistes, on a vu sur l'affaire Depardieu, ouais. Emmanuel Macron défendre Gérard Depardieu, c'est quand même le président de la République, d'autres qui l'accusent, qui ne veulent même plus voir ses films. Vous pensez qu'il faut faire cette part? Bon, il y a la justice, hein, évidemment, qui tranchera à un moment, mais...
Vous savez, vraiment, c'est un petit peu plus large que ce sujet-là, ce que je vais vous dire, mais moi, je suis acteur. Mon métier, c'est d'interpréter des textes. Et vraiment, si j'ai choisi ce métier-là, c'est aussi parce que prendre la parole en public, je sais le faire sur des textes. Et que j'ai beaucoup de mal à aller...
Vous engager pour une cause ou pour une autre?
L'engagement, c'est mon affaire personnelle, mais la prise de parole sur des sujets, voilà, c'est vraiment pas mon truc. Je ne veux pas m'aventurer à cet endroit-là, c'est assez compliqué pour moi. Mmh. Voilà.
Et le mouvement MeToo, quand même, il a changé des choses dans votre métier, parce qu'il faut rappeler, il est né dans votre monde. Hein,
Donc,
il
des
est
venu actrices,
actrices aux États-Unis avec l'affaire Weinstein. Vous sentez une différence depuis?
Oui, en plateau, il y a une différence concrète, c'est que, notamment sur Super Sexe, mais sur tout le projet.
Ouais.
Il y a des référents intimité, donc dès qu'il y a une scène de nudité, de
vous en avez une en Super Sexe?
À chaque fois, il y en a.
Vous avez des scènes de sexe et...
Non, j'en ai pas, mais je les ai vues sur le plateau, qui étaient là pour d'autres scènes.
C'est encadré, en fait.
Et puis, sur The New Look, à un moment, on voit un bout de ma jambe, et voilà, on ne savait pas si j'étais nu ou pas nu. Il y a une coordinatrice pour ça. S'il y a un baiser, il y a un coordinateur.
Ah ouais, voilà. Même pour les baisers. Mais c'est pas un peu trop, non?
C'est ce qui est un petit peu troublant, parce que c'est un petit peu ce qui est un peu troublant. C'est que, encore, le baiser, j'exagère, pardon, ça se passe sur Apple, sur des choses comme ça, oui. Sur des séries françaises, on va avoir une coordinatrice si on mime une scène de sexe. Par contre, s'il y a un baiser...
Baiser, non.
Non. Alors que, enfin, quand même, on échange de la salive et des trucs, quoi. Enfin, c'est un truc hyper intime, quoi. C'est très intime. Donc, je crois qu'on est encore en train de questionner cet endroit-là. Là, il a fallu mettre un coup et se dire, bon, protégeons. Il y a une sorte d'éveil, là, c'est-à-dire qu'il faut protéger les gens, quoi. Donc,
mais
ça
très
a été...
concrètement, ils vous disent quoi pour un baiser dans quel sens on tourne la langue?
Non, c'est... Non, mais on t'appelle la veille, déjà. On dit, on est bien d'accord, c'est écrit au scénario, est-ce que t'es bien d'accord pour le faire? Oui, je suis bien d'accord.
Ouais. D'accord,
donc voilà, on va faire ça, ça va se passer dans ces conditions, et voilà. En gros, c'est ça.
D'accord, c'est très encadré. Ouais. Merci David Camino, sans passer notre dernière rubrique au suivant. Nous recevrons demain un autre comédien, Charles Berling, un grand comédien qui sera à l'affiche de L'Enchanteur la semaine prochaine, dans lequel il incarnera l'écrivain Romain Gary. Ce sera donc mardi prochain sur France 2. Je sais que vous connaissez Charles Berling, je sais que vous l'appréciez sûrement. Vous pouvez lui poser votre question.
Bonjour Charles, je voudrais connaître ton premier souvenir de jeu.
Premier souvenir d'acteur.
Ouais, de jeu. Ça peut être de l'enfance même.
De l'enfance. Ah, super. Ouais. Eh bien, on me posera la question.
Bonne question.
On espère qu'il s'en souviendra, évidemment. Mais je suis sûr que la réponse sera intéressante. Merci beaucoup, David Kamenos, en tout cas, d'être passé nous voir. Et encore merci de votre fidélité au Buzz TV.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.